Coucou, c'est Victor. Comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Mais c'est pas gratuit à produire. Ça me demande de l'argent, mais surtout énormément de travail qui n'est pas rémunéré. Alors si vous pensez que Comme un poisson dans l'eau apporte quelque chose de positif et que vous voulez qu'on puisse continuer à déconstruire le spécisme ensemble, j'ai besoin de votre soutien. Vous pouvez aller sur la page YouTube du podcast, dont le lien est en description, et établir un don mensuel ou faire un don ponctuel. Vraiment, même 1 €, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous 1 €, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Jusqu'ici, dans Comme un poisson dans l'eau, on a beaucoup abordé la question pourquoi. Pourquoi le spécisme est-il injuste? Pourquoi les animaux comptent-ils moralement? Pourquoi faire souffrir et tuer prématurément des animaux pour les manger est immoral? On a beaucoup parlé des principes, mais encore très peu des solutions. La question maintenant, c'est comment? Comment on fait? Comment on défait la société spéciste? Comment on fait pour, au minimum, réduire les souffrances des animaux? Ça tombe super bien, parce que mon invité aujourd'hui a écrit un livre qui s'appelle « Comment sauver les animaux ?» et il a quelques pistes. Mon invité est Romain Espinoza, un des deux seuls spécialistes de l'économie de la condition animale, du moins en France pour le moment. Il est chargé de recherche au CNRS en économie et travaille au CIRED, le Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement. Et son livre « Comment sauver les animaux ? Une économie de la condition animale » est sorti en 2021 aux Presses universitaires de France. Bonjour Romain Espinoza.
Bonjour Victor.
Alors merci beaucoup d'avoir accepté de vous libérer. C'est un vrai plaisir de vous recevoir dans Comme un poisson dans l'eau. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comment sauver les animaux ?» qui du coup prend pour acquis qu'il le faut, sauver les animaux, qu'il faut faire de notre mieux pour aller vers une société sans exploitation animale. Et je pense que ce positionnement clairement engagé ne va pas forcément de soi quand on est économiste et chercheur au CNRS. Alors je voulais vous demander, pour commencer, quelle est votre conception du rapport des chercheurs et chercheuses à la question de l'engagement? En fait, très concrètement, est-ce qu'il et elle, est-ce que vous devez vous mouiller?
Alors c'est une bonne question, c'est une question qui traverse le milieu universitaire, hein, bien au-delà juste de la question de la condition animale. Je se pose la même question un peu pour les collègues qui travaillent sur des questions d'inégalité de genre, des questions d'inégalité suite à des discriminations raciales, etc. Sur beaucoup de domaines en fait. Ce qu'on a vu apparaître ces dernières années, c'est beaucoup le terme de chercheurs et chercheuses engagés dans la société. Donc c'est à la fois la production de connaissances et en même temps la mise à disposition et voir de ces connaissances, mais même aussi de convaincre le politique pour essayer de mettre en place les meilleures solutions. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit assez globalement sur la question climatique, hein, c'est-à-dire qu'on a produit des connaissances qui ont été utiles, mais pendant très longtemps laissées dans le placard. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'engagent aussi dans la cité là-dessus. Donc non, ça va pas forcément de soi, c'est une réflexion qu'on a en tant que chercheur, hein, bien sûr. Dans le livre, le postulat que j'ai fait, c'est que oui, effectivement, la condition animale est quelque chose qui importe aujourd'hui. Je pense qu'on, pour moi, on le reconnaît. Les connaissances scientifiques, elles sont clairement établies que les animaux souffrent, que les animaux sont intelligents et que, à ce titre-là, il faut s'intéresser à leur bien-être. Je pense qu'aujourd'hui, 90% des Français seraient d'accord avec ça, que ce soit leur chien, leur chat ou quoi que ce soit. Donc c'était pour moi un prérequis et je voulais sortir des discussions un peu éternelles sur est-ce qu'il faut améliorer le bien-être des animaux. Je suis parti de l'idée que oui, il fallait. Maintenant, il y a un consensus et scientifique et social là-dessus. Et donc, comment est-ce qu'on faisait? D'où ce livre que je trouvais intéressant dans cette perspective.
D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que dans l'introduction de votre livre, vous parlez, alors on parle souvent d'erreurs de type 1 ou de type 2, et vous parlez d'une erreur de type 3. Est-ce que vous pouvez expliquer les différences?
Oui, alors les erreurs de type 1 et de type 2, c'est des erreurs aussi en statistique, hein, beaucoup. C'est par exemple dire qu'il y a un effet causal quand il n'y en a pas, ça c'est un type d'erreur, ou bien dire qu'il n'y a pas d'effet causal quand il y en a un, donc c'est aussi un autre type d'erreur. Ça s'applique à plein de choses, et il y a un jour je suis tombé sur l'édito d'un chercheur, en fait, dans un journal assez connu, qui disait en fait il y a des erreurs de type 3 dans la recherche qui consistent à utiliser les bonnes méthodes pour répondre aux mauvaises questions. Et ça m'a vraiment marqué. Parfois on a ces sortes un peu d'épiphanie, de prise de conscience soudaine, très forte. Et je me suis rendu compte que c'était le cas, c'est le cas en économie beaucoup, et le cas aussi peut-être moi dans mes travaux. En économie, il y a un peu un culte de la technique, et parfois on se laisse un peu porter dedans, de la reconnaissance par les pairs qui fait qu'on publie pas forcément ce qu'on trouve intéressant, mais ce qu'on pense que la communauté scientifique va trouver intéressant, etc. Et finalement, si on prend un point de vue un peu plus global, on gâche aussi des ressources comme ça, à pas forcément s'intéresser aux sujets qui sont importants, mais aux sujets qu'on croit que les autres trouvent importants, ou bien juste des sujets qu'on fait juste pour montrer que techniquement on est capable de le faire et être bien vu par les pairs. Et donc ça a beaucoup résonné, et c'est vrai que ça a contribué pas mal au fait de changer de sujet de recherche, parce qu'avant je travaillais pas là-dessus, et de m'intéresser à la question de l'économie de la condition animale. Pour moi, il y avait vraiment deux grands sujets aujourd'hui, qui sont en fait l'environnement et la condition animale. Après, j'ai été un peu utilitariste dans le sens où économie de l'environnement, il y a déjà pas mal de monde qui travaille, qui font déjà des super choses, et donc au CIRED, j'ai plein de collègues qui sont là-bas, qui sont au GIEC et tout, donc c'est déjà bien bien travaillé. Par contre, il y avait très peu de chercheurs en économie de la condition animale, et donc ça a un peu été une prise de conscience. Et puis aussi, j'ai eu la chance de rencontrer très tôt aussi Nicolas Trèche, qui s'était mis un peu avant moi sur le sujet. Et donc forcément, les deux mis ensemble, je me suis engagé dans cette voie. Ouais.
Et du coup, concrètement, ça donne quoi une économie de la condition animale? Parce que ça paraît pas évident, même pour moi, avant de lire le livre, ce que l'économie a à faire avec cette question des animaux ou éventuellement de la discrimination, de leur exploitation. Du coup, à la fois peut-être théoriquement, qu'est-ce que l'économie peut apporter, et si vous avez aussi quelques exemples concrets de ce que l'économie peut contribuer à cette réflexion, en fait.
Alors c'est vrai que très souvent on se rend pas compte de ce que peut apporter l'économie, parce qu'en fait on connaît assez mal l'économie et surtout la recherche en économie. Donc on a souvent une vision très limitée de ce que c'est que la science économique. Par exemple le chômage, le PIB, enfin le produit intérieur brut, des choses comme ça. En fait l'économie, la science économique aujourd'hui c'est devenu vraiment une discipline qui analyse les décisions des agents. Et qui s'intéresse aussi à la meilleure allocation possible des ressources. Donc c'est des définitions qui sont très larges, mais du coup on touche des sujets très différents. Dans le livre, je discute par exemple sur le fait que l'économie aussi c'est quelque chose qui s'est créé un peu comme les conseillers aux princes. Et donc c'est-à-dire que les économistes ont été là pour donner des conseils sur comment guider la nation. Et donc il y a toujours eu quand même ce double pendant en économie, et à la fois positif, qui est la description du monde, qu'est-ce que consomment les gens, comment, quels sont les effets de substitution, etc., quel est le chômage, tout. Et il y a une dimension normative, qui est quelles réformes de société on devrait mettre en place pour améliorer le bien-être de la société. Et donc à partir de là, on s'intéresse pas beaucoup de choses pour les humains, mais quand on commence à intégrer les animaux, l'économie peut apporter beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, les animaux sont finalement assez proches des êtres humains, dans le sens où ils sont capables d'expérimenter différents états du monde, ce qu'on appelle le welfare en anglais, différents états de welfare, positifs, négatifs, on peut les ranger des meilleurs aux moins bons. Et donc, ils ont ce qu'on appelle des utilités, donc
Le bien-être, en
du
fait.
bonheur, en fait, de bien-être, exactement.
Ouais. Alors, tout petit point vocabulaire, on a un problème en français pour traduire le mot welfare. Parce que welfare en anglais, ça renvoie tant aux expériences positives que négatives. Donc, c'est tant les états de bien-être que les états de souffrance. Et on n'a pas de tel mot en français. Donc, on a tendance à traduire welfare par bien-être. Et ça peut expliquer en partie pourquoi le mot bien-être est complètement galvaudé en français. Si bien qu'on parle du bien-être pour des conditions de souffrance extrême des animaux.
Et donc on peut classer leur bien-être, et donc de la même manière qu'on peut définir ce qu'est une meilleure société pour les êtres humains en termes de bien-être, et ben on peut le définir aussi pour les animaux. Comment est-ce qu'on définit des métriques qui permettent de dire si la société est meilleure ou pas en passant une politique publique? Donc là, on a des choses à apporter, et donc c'est des choses qu'on développe actuellement, mais par exemple, dans 10 ans, peut-être qu'on pourra quantifier, arrêter l'élevage intensif, ça va rapporter, ça va améliorer le bonheur de la société de temps, en incluant les animaux, les êtres humains, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est économie du choix social, mais aussi il y a tous les autres domaines de l'économie qui sont concernés, donc tout ce qui est économie comportementale, donc c'est comment, par exemple, les êtres humains prennent des décisions altruistes envers les animaux, ou au contraire, plutôt égoïstes. On peut avoir de l'économie dite industrielle, donc qui regarde la structure des industries pour essayer de comprendre, par exemple, les coûts de production de différents systèmes d'élevage entre plein air, intensif, etc. Donc là aussi, ça permet de quantifier, par exemple, combien il faudrait mettre en plus sur la table par le consommateur ou par l'État pour améliorer les conditions d'élevage dans un système, dans un cadre de pensée plutôt welfariste. Donc on a vraiment une myriade de sous-champs économiques qui peuvent se saisir de la question animale.
C'est intéressant parce qu'en fait, vous avez dit l'économiste, historiquement, c'est le conseiller du prince. Bon, bah, avec vous, l'économiste est en train de devenir le conseiller des activistes parce que vous arrivez à déterminer, en fait, vous étudiez quels sont les types de campagnes animalistes, donc les plus efficaces. Et notamment, je crois que dans un de vos articles, vous avez étudié la différence entre une campagne de type abolitionniste et une campagne de type davantage welfariste. Est-ce que vous pourriez parler de ça?
Alors l'objectif général effectivement de cette partie de mes recherches, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut réduire la consommation de viande. Donc je dis pas qu'il y a aujourd'hui, je pense pas qu'il y a un consensus pour l'arrêt total de la consommation de viande dans la sphère scientifique, mais où il y a vraiment un consensus, c'est qu'il faut diminuer drastiquement cette consommation de viande. Peut-être qu'il faut déjà réduire de 80%, les 20% qu'il y a, on discutera peut-être plus tard, mais en tout cas, on est sûr que si on prend un peu l'alimentation de Lancet, enfin la commission Eat-Lancet, qui dit vraiment qu'il faut diminuer drastiquement la consommation de viande si on veut respecter les limites environnementales, par exemple. Bon, comment est-ce qu'on arrive ici? Et donc, il y a plusieurs choses qu'on a fait. Donc, une des choses, effectivement, c'est regarder quels sont les types de messages, quel est le rôle des ONG là-dedans, quel est le type de message qu'elles envoient et comment c'est perçu par le public. Généralement, on distingue trois grands types d'ONG. Welfariste, donc, je pense que les gens savent, mais je rappelle quand même, c'est les ONG qui veulent, qui ne se prononcent pas forcément pour la fin de l'exploitation animale, mais qui veulent l'amélioration des conditions d'exploitation des animaux. Plus loin, il y a ce qu'on appelle les abolitionnistes, qui elles se prononcent clairement contre l'exploitation animale, donc qui veulent l'arrêt de toute forme d'exploitation animale. Et il y a aussi le groupe un peu intermédiaire, qui est donc ce qu'on appelle les abolitionnistes réformistes, qui à terme un objectif plutôt abolitionniste et qui à court terme ont une stratégie welfariste.
Typiquement L214.
L214, c'est partie de la dernière catégorie. Dans la première catégorie, on peut par exemple penser à Wellfarm, qui est dans son nom plutôt welfariste. Et puis des abolitionnistes purs, c'est surtout en France, je pense, Boucherie Abolition par exemple, qui représente un peu ce mouvement-là. J'ai fait un article quel est l'état du milieu militant en France, et en fait le milieu français est très peu abolitionniste dans ses méthodes ou stratégies de communication. On est dans un milieu qui est très welfariste et très très progressiste. Mais pour revenir donc à l'expérience, on a regardé l'impact effectivement de deux types de discours. Un discours en reprenant les codes de welfariste. Donc ce qui compte, c'est pas forcément d'arrêter la consommation de viande totale, mais d'en manger moins, de manger mieux. Et un discours abolitionniste, voilà, qui se positionne clairement pour l'arrêt de la consommation de tout produit issu de l'exploitation animale. Donc on fait venir des étudiants en laboratoire. Donc c'était à Rennes. Donc un laboratoire, c'est une salle avec plein d'ordinateurs. On leur fait voir lire le discours, enfin ils disent chacun le discours, et puis ensuite on regarde comment ils s'engagent pour la condition animale. Donc ici, les participants pouvaient signer des pétitions pour des menus végétariens dans les cantines, signer une pétition pour demander la fin de l'élevage intensif, s'inscrire à une newsletter qui était d'ailleurs une newsletter avec des conseils pour devenir vegan. Et quatrième chose, ils pouvaient donner de l'argent à une association animaliste. Et donc ici, on a vraiment, on compare un groupe qui n'a pas eu de discours avec un groupe qui a eu un discours welfariste et avec un groupe qui a eu un discours abolitionniste. Et nous, ce qu'on voit dans ce travail-là, donc c'est avec des étudiants, c'est qu'en fait, Au niveau global, le discours abolitionniste fonctionne assez mal. Donc, les gens ont tendance à avoir une réaction de rejet, qu'on appelle de réactance. Et le discours welfariste fonctionne plutôt bien. Entre pas de discours et un discours abolitionniste, il n'y a pas trop de différence. Mais vraiment, celui qui performe le mieux, c'est le discours welfariste. Où là, les gens changent d'avis et surtout, ils changent en termes d'action. Ils sont prêts à s'investir plus pour la condition animale. Comparativement à un discours abolitionniste. Le discours abolitionniste, dans nos résultats, il change quand même la perspective des gens, il justifie moins la consommation de viande, par contre, il s'engage pas plus pour le bien-être animal. Donc ça, c'est un peu ça fait partie des nombreuses questions qui restent un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on a cette distinction qui se crée entre les croyances et les actions quand on est face à un discours abolitionniste?
On voit mieux concrètement avec ces deux exemples comment l'économie semble avoir des choses à apporter sur la réflexion sur la condition animale. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle a tant tardé à le faire, ou même en fait pourquoi elle ne le fait pas plus maintenant? Vous avez parlé de Nicolas Trèche, en fait vous deux, je crois que vous êtes les très rares économistes à ma connaissance à vous pencher sur cette question, et je me le demande d'autant plus qu'une large partie de la pensée économique dite classique a été fortement influencé par l'utilitarisme au 19e siècle. Donc vous avez parlé d'utilité hein, tout à l'heure, alors notamment par des penseurs comme Jeremy Bentham ou John Stuart Mill, qui eux ont très tôt considéré que le bien-être de tous les animaux devait être pris en compte et pas seulement celui des humains. Du coup, pourquoi est-ce qu'on en est resté en quelque sorte, pourquoi est-ce que la condition animale est restée un point aveugle de l'économie?
Alors c'est une bonne question. Alors en même temps je suis sévère, en même temps je suis indulgent avec l'économie. Alors je vais commencer par être sévère. Effectivement on est très peu, donc en France on est deux à travailler dessus, donc Nicolas et moi. Au niveau mondial il y a de plus en plus de chercheurs, donc ça c'est quand même vraiment la bonne nouvelle. On y arrive petit à petit mais beaucoup plus tard que d'autres disciplines. Je veux dire la psychologie ça fait bien 10-15 ans d'avance qu'ils ont sur nous. Mais ils ont toujours 10 à 15 ans d'avance sur nous en tout ce qui est comportemental en psychologie. Donc je suis pas surpris, on n'a pas plus que de retard que
pas dans plus pour les animaux.
Après voilà, où je vais être indulgent avec l'économie, c'est que toutes les disciplines ont mis du temps. Je veux dire la philosophie utilitariste c'était là dès le début, mais je veux dire Bentham c'était une note de bas de page, genre, c'était très puissant à l'époque, etc. Mais voilà, regardons aussi le chemin qui a été fait. Et finalement jusqu'aux années 70 avec Peter Singer. Il y a quand même eu pas mal de temps. Faut avoir en tête que des chercheurs, c'est aussi des hommes et des femmes un peu comme tout le monde. Donc, on arrive aussi avec les sujets qui sont dans l'air du temps parce qu'on arrive avec les sujets scientifiques qui nous intéressent nous. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de la recherche, c'est d'avoir des gens très différents avec des sujets qui l'intéressent différemment et chacun travaille sur les sujets qui l'intéressent. Mais du coup, on est au reflet de la société. Et puis ensuite, on est comme, le système scientifique est quand même très, très hiérarchique en fait, c'est-à-dire que pour soumettre, on envoie à des éditeurs et puis en fait, ce qui va être publié, surtout dans les grandes revues, donc ce qui est influent, c'est ce que les éditeurs considèrent comme important. Quand on est recruté par des gens qui sont déjà en place, des personnes plus seniors, donc qui elles aussi vont vous recruter sur ce que elles pensent être les sujets importants. Et donc, si vous avez un sujet qui, par la génération d'avant, n'était pas considéré comme important, et on voit qu'il y a un vrai gap générationnel sur la question animale. Vous avez peu de chances de faire émerger ces nouveaux sujets. De manière générale, c'est difficile d'avoir de l'innovation dans un sous-champ en économie. D'ailleurs, il y a des travaux qui montrent qu'en science, parfois, il y a l'innovation qui explose quand il y a le décès d'un des pontes du domaine, parce que voilà, ça relâche la pression, on peut se mettre à critiquer, etc. et tout. Donc ça, c'est pas tous ces facteurs-là font que c'est pas facile.
C'est intéressant parce que vous avez écrit en 2019 un article qui s'intitule « L'éléphant dans la pièce », où vous prenez du recul justement sur cette question de pourquoi l'économie ne s'empare pas encore de cette question-là. En fait, l'éléphant dans la pièce, c'est une expression anglaise qui veut dire une situation ou un problème qui est évident, qui est aussi visible qu'un éléphant au milieu de la pièce, mais dont personne ne parle. Et du coup, c'est typiquement la question animale en économie, par exemple. Et vous dites aussi dans cet article que, mine de rien, l'économie est quand même une science qui est particulièrement anthropocentrique. Et vous dites que, bien qu'une partie de l'économie soit fondée sur la pensée utilitariste, en fait c'est un utilitarisme spéciste et c'est un utilitarisme individualiste. Je trouve ça très intéressant de développer ça, et aussi le fait que dans vos recherches vous passez justement de cette utilité seulement égoïste à une inclusion de la question de l'altruisme dans le bien-être collectif.
Oui, alors il y a deux questions, enfin deux choses. La première, effectivement, sur l'éléphant dans la pièce, c'est The Elephant in the Room. J'aime beaucoup cette expression parce que bah, déjà il y a un éléphant dedans, donc ça renvoie à la question animale. Et en plus, c'est quelque chose qui est là. Et en fait, donc l'article était sur la condition animale, mais aussi sur la consommation de viande. Et je pense que c'est peut-être arrivé à beaucoup de personnes qui écoutent votre podcast, c'est que plus on lit et plus on se dit, mais comment on peut passer à côté d'un problème aussi important? Et en plus, on a souvent l'habitude de dire quand il y a quelque chose qui est trop beau, trop gros, bah, il y a de grandes chances que ce soit faux parce que sinon tout le monde s'en sera aperçu avant. Et ben en fait, peut-être pas. Et quand on lit, quand j'ai lu, je me suis mis tout l'impact environnemental de la consommation de viande, l'impact sur la santé, etc. Mais surtout environnemental, mais aussi après éthique, mais même sur l'environnement, les collègues n'étaient pas au courant, etc. Et tu te dis, mais comment on peut passer à côté de cette question en économie? Donc c'était vraiment l'éléphant dans la pièce. Et donc j'ai écrit ce premier article là-dessus. Et j'ai eu un éditeur super qui partageait pas du tout mes points de vue, mais qui m'a accompagné dans cet article. Et ça a été une très belle expérience pour rentrer sur le sujet. Et ensuite, c'est vrai, elle se pose la question de qu'est-ce qu'ont regardé les économistes pour définir ce qui était bon ou pas pour la société? Donc ça, effectivement, on a pris le bien-être des individus en disant, ben, je vais regarder juste votre bien-être à vous d'un point de vue purement égoïste, et je vais additionner ces bien-être individuels, tout en occultant ce qu'on appelle les other regarding preferences, donc c'est vos préférences pour autrui, qui peut être positive ou négative. Donc il y a certaines préférences qu'on a essayé de pas prendre en compte et je pense que c'est justifié. Par exemple, imaginez que vous ayez une forte proportion de personnes racistes dans la société. Si vous prenez ces préférences en compte, vous pouvez avoir tendance à dire bon bah il faut des politiques racistes parce que ces gens-là étant racistes, ça va augmenter leur bien-être de taper sur des minorités. Bon, donc là on dit bon, on prend pas en compte les préférences qu'on appelle antisociales, mais on a quand même ces préférences altruistes. Et il y a un peu un paradoxe dans cette littérature, c'est qu'on dit si je prends en compte vos préférences altruistes, ben, je risque d'avoir des personnes qui comptent deux fois. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous vous souciez de votre frère ou votre sœur, disons de votre sœur, mais du coup, si moi je suis le planificateur social, donc les pouvoirs publics, ben, en fait, votre sœur, elle va un peu compter deux fois parce que je la compte individuellement, puis je vais la compter par vous, par votre altruisme. Donc c'est pour ça que les économistes ont dit, bon, ben, on préfère les retirer pour éviter donc ce double comptage, ce double counting. Le problème, c'est que, et c'est un exemple que je donne dans le papier que vous mentionnez, c'est que on peut se retrouver à une situation où le gouvernement veut faire quelque chose qui est contraire à ce que souhaitent les citoyens pour leur propre bien-être. Imaginez l'exemple que vous êtes sur un bateau, vous êtes trois, deux adultes, un enfant, vous avez des réserves de nourriture, et puis les deux adultes sont prêts à sacrifier pour laisser les réserves de nourriture pour l'enfant et qu'il survive. Tout le monde est d'accord, donc on a une situation unanime où tout le monde est d'accord pour que les deux parents sacrifient pour l'enfant. Par contre, le planificateur social, il peut très bien arriver et dire, je prends pas en compte l'altruisme, ce que je vois, c'est que l'enfant, il a moins de chances de survie parce que c'est un enfant. Du coup, je préfère sacrifier l'enfant et garder les deux parents. Et donc, en fait, là, en prenant pas en compte l'altruisme, j'ai donné un exemple tout simple, où il y a unanimité contre ce que veut faire le gouvernement.
Ouais.
Donc, on peut déjà ouvrir la boîte de l'altruisme, et quand on ouvre la boîte de l'altruisme, ben ensuite, le premier truc qui arrive, c'est même si on ne s'intéresse pas aux animaux pour eux-mêmes, eh ben, il y a quand même cette fonction altruiste des animaux. Mais l'étape suivante sur laquelle effectivement je pense qu'il faut aller, c'est il y a l'altruisme envers les animaux, il faut le prendre en compte, mais il y a aussi les intérêts des animaux pour eux-mêmes.
Oui, juste le dire, dire en fait prendre en compte le bien-être des individus, il n'y a pas de raison que ce soit que les individus humains dont on prend en compte le bien-être en fait.
Tout à fait.
Parce que c'est une restriction arbitraire du champ de considération de l'économie pour le coup et pas du champ de considération morale pour une fois, mais en fait même résultat quoi.
C'est vrai, mais en fait, l'argument que je voulais dire aux collègues dans ce papier, c'est que même en s'intéressant à l'altruisme qu'ont les humains pour les animaux, on pourrait déjà faire énormément de choses.
Ouais.
Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde les politiques publiques, le gouvernement fait très très peu sur des questions altruistes, en fait, envers les animaux. Je veux dire, quand on voit les taux d'opposition, par exemple, très forts envers certaines pratiques de chasse, par exemple, le déterrage ou des chasses à courre, des choses comme ça, donc il y a un altruisme qui existe, qui est très présent, et pourtant, bon, en fait, on va pas du tout regarder les considérations altruistes de ces électeurs-là, et on va regarder les considérations égoïstes des... pas au sens moderne, mais égoïste des personnes qui chassent, qui pratiquent ces chasses-là, et on met pas du tout en balance ça. Et donc même là, je dis, bon, si on ouvrait cette fenêtre de l'altruisme, sans s'intéresser aux animaux pour eux-mêmes, mais que pour les êtres humains, on pourrait déjà faire énormément de choses.
Et du coup, ça pointe vers le quatrième facteur principal que vous identifiez, c'est le poids de lobby, en fait. Tout simplement, mais qui est énorme et qui est un des principaux facteurs, vraiment, non?
Alors oui, le poids des lobbies est énorme, que ce soit sur les politiques publiques ou sur la recherche. Alors, la recherche est aussi beaucoup financée par des fonds privés. Moi, j'ai eu l'avantage de n'avoir que des fonds publics dans ma recherche depuis le début. Mais il y a beaucoup de collègues qui ont aussi des fonds privés, en sciences naturelles aussi beaucoup. Et par exemple, il y a beaucoup de travaux. On voit souvent des travaux sortir sur l'impact de l'alimentation sur la santé ou bien les articles toujours friands, c'est est-ce que les véganes ou végétariens sont plus déprimés que les autres ou pas? Et en fait, un article sur deux est financé par l'industrie de la viande. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Donc, le poids du lobby, ça peut être financer les études, mais ça peut... Et après, il y a toute une palette de stratégies hein, qui sont assez fortes. Ça peut être du discrédit ou du harcèlement de chercheurs. Ça peut être aussi de manière plus subtile, c'est-à-dire que... On lance des appels à projets et comme les chercheurs ont besoin d'argent, bah, ils vont travailler sur les sujets qui intéressent l'industrie, etc. Et puis il y a aussi parfois des cofinancements public-privé. Voilà, moi j'ai vu des cofinancements de l'ANR avec des financements privés pour, je sais pas, améliorer la productivité des vaches laitières, des choses comme ça.
Donc l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche
Oui,
qui
tout à
donne
fait.
les fonds pour financer les recherches, par exemple, d'un chercheur au CNRS.
Voilà, entre autres, et donc j'ai vu des projets cofinancés où voilà, on s'intéressait à améliorer la productivité du lait des vaches laitières. Je m'interroge sur est-ce que c'est à des fonds publics de financer ça. Voilà, c'est et donc en fait en cofinançant ça, ben forcément il stimule des recherches, donc on reste aussi dans un système, on produit des savoirs qui entretient un peu ce système-là, en n'ayant pas de fonds pour la critique en fait, ou très peu.
J'ai vraiment adoré votre article parce qu'en fait, si on retourne les quatre freins que vous identifiez principaux du fait que l'économie ne prenne pas encore en compte ces questions-là, en fait, ça dessine un peu en miroir ce vers quoi on peut ou on doit aller pour une science économique qui prendrait réellement en compte ces sujets. Donc, une science qui dépasse l'anthropocentrisme, qui parvienne à faire contrepoids au lobby, dont les conclusions soient appliquées par le pouvoir politique, du coup, qui soit plus ouverte au dialogue avec d'autres disciplines, moins hiérarchisée, moins cloisonnée. Enfin voilà, ça semble être une meilleure science économique si on pousse vers ça.
J'y ai pas pensé, mais c'est bien vu.
Et du coup, on en vient à la question du paradoxe. Alors, en général, on l'a vu avec Martin Gibert, on parle plutôt en psychologie du paradoxe de la viande. Et vous, au début de votre livre, c'est intéressant, vous dites, en fait, il n'y a pas que le paradoxe de la viande, il y a plus largement un paradoxe de l'exploitation animale. Parce que c'est vrai qu'en fait, la consommation humaine n'est pas le seul motif d'exploitation des animaux. Il y a plein de nos comportements qui sont juste pas logiques et pas rationnels. C'est pas rationnel qu'on continue d'exploiter les autres animaux. En fait, ça cause du tort à tout le monde. C'est pas optimal non plus pour le bien-être même seulement des humains et humaines. Et du coup, la question, c'est pourquoi en fait? Pourquoi il y a un tel écart? Et du coup, vous proposez dans votre livre énormément d'explications possibles, et pas incompatibles entre elles d'ailleurs, et déjà quelque chose de peut-être surprenant. Alors moi j'ai tendance à me dire que tout le monde est au moins un petit peu au courant de ce qui se passe pour les animaux d'élevage, que tout le monde a vu passer une vidéo de L214 par exemple. Eh bien vous dites qu'on aurait tort en fait de sous-estimer l'ignorance sincère de beaucoup de personnes encore.
Oui, alors c'est vrai que pour revenir un peu à cette théorie, c'est clair que la théorie de la dissonance cognitive a été très discutée. Je pense qu'elle est assez connue aussi, peut-être dans le monde militant, aussi dans le milieu des chercheurs scientifiques. Et à juste titre, je pense que c'est vraiment un facteur de premier ordre. Mais dans le livre, je me suis dit, j'ai eu à cœur de me dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres théories? Est-ce qu'on ne se focalise pas sur une seule? Et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs explicatifs? Et donc, une grande partie du livre est en fait dédiée à ça. Essayer d'aller explorer est-ce qu'il y a voilà, des explications alternatives et donc je suis allé creuser un peu dans plusieurs théories comportementales voilà. Et la première c'est effectivement je me dis mais est-ce qu'on commencerait pas par la première des choses qui est ben les gens ils se rendent pas compte que ça se passe si mal en fait pour les animaux, ils se rendent pas compte ce que c'est de quand on mange une tranche de jambon bah 99% 95% des porcs c'est de l'élevage intensif, donc il y a 95% de chances que ça vienne d'un élevage intensif. pense que du coup, il y a un gros problème qui est une sorte de bulle informationnelle quand on est chercheur dans le domaine ou quand on est militant, c'est qu'on voit ces informations en permanence et puis on a des réseaux de gens qui sont au courant de ça, donc c'est l'illusion de la majorité. Et peut-être qu'à l'extérieur, c'est pas ça. Donc, quand on se promène un petit peu en ruralité, et ben, ce qu'on voit, c'est que les seuls animaux auxquels on a accès, c'est ben, les vaches en plein air, les poules en plein air, etc. Parce que par définition, elles sont en plein air, donc on y a accès, on peut les voir, tandis que tous les animaux en élevage intensif, on les voit jamais. Et donc, moi, j'avais une collègue un jour qui me disait « Mais tu sais, Romain, moi, je vois chez moi, dans le Limousin, toutes les vaches, elles sont toutes en extérieur. » Et ce jour-là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit « Mais bien sûr, par définition, elles sont à l'extérieur, bah, parce oui, que c'est celle que tu peux voir.
Ouais. »
Voilà.
Ça a un nom, ça, en fait. C'est le biais de représentativité. C'est-à-dire la tendance à fonder son jugement ou à prendre une décision à partir d'un nombre limité d'éléments que l'on considère comme représentatifs d'une population beaucoup plus large. Donc les vaches qu'on voit paisser paisiblement dans les champs, qui ne sont pas représentatives de l'élevage. Et au passage, on ne voit pratiquement jamais de porcs en extérieur, car en France, c'est 95% des porcs qui sont élevés en élevage intensif, et ne voient donc jamais la lumière du jour.
Et donc en fait, je pense que la majorité des gens en fait ne vont pas chercher activement de l'information là-dessus. Ils sont exposés à quoi quotidiennement? Ils sont exposés donc à ces animaux en plein air pour que ça se passe bien, ou bien les poules de leur jardin ou du jardin du voisin pour que ça se passe bien, ou bien les messages publicitaires de l'industrie qui sont quand même très favorables, donc avec des vaches en liberté ou bien des poules en 3D qui dansent, etc. Donc en fait, pour l'individu qui n'est pas sensibilisé à la question ou qui s'intéresse mais moyennement à la question, tous les messages sont plutôt positifs. Voilà. Donc l'idée était de tester ça.
Oui, vous parlez de tester, en fait, par opposition à cette ignorance sincère, vous parlez d'une ignorance feinte qui est celle qui correspondrait du coup à la dissonance cognitive, et je trouve ça vraiment intéressant de distinguer ces deux types d'ignorance. Et du coup, vous avez développé un protocole expérimental pour essayer d'identifier, de séparer les deux, et de savoir quand est-ce qu'il s'agit d'une ignorance sincère ou feinte.
Oui, alors il y a plusieurs manières de faire, mais effectivement, donc un des travaux sur lequel on a travaillé avec Ian Stoop, c'est que on est parti d'une idée un peu toute simple au début. On s'est dit, il y a un groupe de personnes à qui on demande, dites-moi si c'est vrai ou faux, l'OMS considère que la viande rouge transformée est cancérigène pour la santé. Et il y a un autre groupe à qui on pose la même question et on leur dit, vous gagnez par exemple 1 euro si vous répondez correctement. C'est même pas 1 euro, c'était 30 cents de pounds, donc c'est vraiment très peu. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a une partie importante, entre 10 et 15% des gens, qui se mettent à changer de réponse. Qui vous disent, quand c'est pas payé, non, c'est pas cancérigène. Et quand c'est payé, ils vous disent, oui, c'est cancérigène. Et donc, en faisant ça, en créant une petite incitation, on s'est rendu compte que les gens avaient l'information. C'est juste que ils voulaient pas vraiment la révéler. Donc là, on imagine ce qui se passe avec 30 cents. Si on mettait peut-être beaucoup plus, genre 50 euros pour la bonne réponse, on aurait peut-être d'autant plus. Et même à partir de 10 cents, on avait ça. Donc on a utilisé ce protocole sur trois types de sujets. La consommation d'alcool, tout ce qui est relié à l'immigration et tout ce qui est problème l'externalité liée à la consommation de produits d'origine animale. Et on voit que c'est uniquement sur tout ce qui est alimentation animale, où les gens vraiment font semblant d'être ignorants et changent de réponse quand ils sont payés.
Donc ça veut dire qu'on se ment davantage à nous-mêmes quand il s'agit de la consommation d'animaux, en fait.
Oui, c'est-à-dire que quand vous avez un comportement que vous essayez, par exemple, de préserver et que vous avez intérêt un peu à vous mentir. En fait, vous mentez aux autres, mais en fait, vous mentez aussi à vous-même. Mmh. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas prêt à reconnaître en face de quelqu'un que la viande est cancérigène, c'est que vous protégez vous parce que vous en mangez, en fait. Donc effectivement, sur l'alcool, c'est pas trop le cas parce qu'en fait, l'alcool, vous n'avez pas trop intérêt à vous mentir à vous-même dans la mesure où, en fait, c'est vous qui allez en supporter les coûts. Donc sur la viande, peut-être, on a trouvé ça aussi sur la cancérigénité, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais on a aussi par exemple sur les vaches, on dit est-ce que les vaches elles produisent naturellement du lait en broutant de l'herbe Donc la plupart des gens en fait ne réfléchissent pas en fait qu'il y a un veau derrière. Voilà, quand on se met à les payer, les gens, 15% des gens se mettent à répondre autrement. Mais donc ça, vous avez une tendance à vouloir l'oublier, et sur l'alcool, on trouve pas ça, parce que c'est vous qui en supportez le coup. Et sur l'immigration, Là, on explique que vous n'avez pas trop intérêt à vous mentir parce que ça dépend pas de vous, en fait. On se rend compte sur l'immigration que les gens, surtout, sont très ignorants, de manière générale. Et si on leur donne l'information, ils changent très rapidement leur réponse sur l'immigration. Mmh. C'est beaucoup moins le cas, d'accord, par exemple, sur le bien-être animal.
Et du coup, il y a l'ignorance sincère et l'ignorance feinte qui correspond à la dissonance cognitive. En fait, il y a beaucoup plus d'autres explications que vous présentez dans votre livre. Alors, on peut peut-être en passer quelques-unes en revue pour voir la diversité, en fait, de ce que vous proposez. Déjà, la première, c'est un fonctionnement système 1, système 2, qui est... expliquez-nous ce que c'est, parce que c'est pas du tout évident pour ceux qui n'ont pas lu les travaux en psychologie sur la question.
Plusieurs travaux qui sont intéressés sur nos mécanismes de prise de décision. Donc, c'est une littérature qui est toujours en expansion, et je suis pas sûr que d'être le plus à jour là-dessus, mais pour tracer les grandes lignes de ce qui est reconnu, c'est qu'on a un système de pensée qui est plus le système 1, qui est plutôt un système rapide de prise de décision. Donc ça fonctionne par exemple avec les heuristiques, ou bien c'est les décisions que vous faites quotidiennement sur plein de choses sans réfléchir. Et donc ça, c'est un système qui est peu coûteux, mais qui peut produire des erreurs, surtout dans des situations qui sont compliquées et qui sont des situations peu habituelles. Et le système 2, c'est le système de réflexion, donc lui beaucoup plus lent, beaucoup plus peut-être rationnel, mais qui est aussi plus coûteux cognitivement. Donc là, je sais pas, c'est pendant vos années de lycée ou de concours, quand vous sortez d'une épreuve de 2 heures et que vous êtes lessivé intellectuellement, c'est que vous avez mobilisé le système 2 pour répondre à des problèmes. Voilà. Et le système 1, c'est vous sortez de chez vous le matin, vous vous rendez pas compte que vous avez à peine fait attention au fait que vous avez pris votre douche, vous êtes lavé les dents, vous avez pris votre petit-déj parce que vous avez juste fait des actions habituelles.
C'est la conduite automatique, quoi.
Exactement. Et donc, en fait, ici, l'idée, c'était peut-être d'explorer le fait que les décisions alimentaires, on sait que c'est des décisions qui sont prises de manière très régulière, donc c'est des habitudes alimentaires, et donc on n'y réfléchit plus vraiment. Donc, il y a un travail que je cite où ils estiment qu'on prend, par exemple, plus de 200 décisions alimentaires dans la journée, sans s'en rendre compte. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on mange, où, avec qui, sous quelle forme, etc. À quelle heure, ça. Donc, si on devait se focaliser sur l'alimentation, enfin, ce qu'on mange à tous les repas, et sur toutes ces dimensions, ce serait hyper coûteux. Donc, en fait, on est en pilote automatique sur beaucoup de décisions. Et donc, c'est là où on peut comprendre les habitudes alimentaires. C'est-à-dire que vous êtes habitué à manger de la viande, vous continuez à manger de la viande. Donc, on peut vous informer, vous pouvez évoluer. Donc, quand vous réfléchissez, vous dites oui, je comprends, il y a un gros impact environnemental, ou bien oui, c'est très mauvais pour le bien-être animal, il faut que je réduise. Mais qu'en fait, au quotidien, vous faites les courses, vous réfléchissez pas, vous prenez comme d'habitude, voilà, vous faites les recettes auxquelles vous êtes habitué en mode pilote automatique. Et donc ça, c'est difficile d'aller casser votre habitude qui est drivée par le système 1, par en fait l'information qui vient du système 2, l'infection qui vient du système 2.
Alors un deuxième mécanisme que vous décrivez, ou un deuxième type d'hypothèse, c'est le warm glow. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept, le warm glow ?
Alors warm glow, c'est intéressant, ça fait pas mal de temps que ça commence à être là, et pourtant il y a encore plein de travaux dessus, donc c'est super intéressant en économie, en psycho. Le warm glow, c'est aussi fait partie de ce qu'on appelle l'altruisme impur. C'est en fait quand vous prenez du plaisir finalement à être altruiste, mais c'est pas tant la conséquence de votre action altruiste qui compte que le fait d'avoir fait une action altruiste. Donc typiquement, vous donnez à une ONG pour lutter contre la malnutrition dans les pays en développement. Ben en fait, faut distinguer deux choses. Il y a, est-ce que vous vous sentez vous bien d'avoir fait ça moralement, vous dites oui, j'ai fait une bonne action. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'altruisme impur, et l'altruisme pur qui est je me sens bien parce que des gens vont se sentir mieux par mon action. Voilà. Donc tout mouvement, entre autres de l'altruisme efficace, pour ceux qui connaissent, c'est construit un peu contre ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est pas faire des actions qui nous font nous sentir bien nous, mais faire des actions qui font qu'au final, on a le plus d'impact sur la vie des autres. Mmh. Donc les gens qui sont dans l'altruisme efficace, ils sont pas dans le warm glow. Mais donc le warm glow, ça peut créer des problèmes dans le sens où on peut être très content d'avoir fait une action qui a un impact très faible. Typiquement, si vous avez le choix entre, pour les animaux, devenir vegan ou prendre soin de votre chien, peut-être que vous avez décidé de prendre soin de votre chien, et puis vous allez vous dire « Ah, j'ai fait quelque chose pour les animaux, j'ai pris soin de mon chien ». Et en fait, donc vous allez aider un animal, alors que peut-être si vous aviez été vegan pendant une année, vous auriez sauvé à peu près 20 animaux. Donc ça peut expliquer donc aussi le fameux paradoxe de l'exploitation animale où vous faites des actions finalement peu coûteuses, donc mais pour les animaux. Donc vous avez déjà eu votre bonheur de dire c'est bon, j'ai déjà fait quelque chose pour les animaux, je suis content. Ok, et au contraire, vous auriez vous négligez des actions peut-être plus coûteuses pour les animaux à cause de ça.
D'accord. J'ai l'impression que ça rejoint une autre des hypothèses que vous présentez, et pour être honnête, j'ai du mal à la distinguer du warm glow. C'est la question de la licence morale. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et en quoi ça se distingue du warm glow?
Donc la licence morale, ça fait aussi partie de ce que je considère être dans cet altruisme un peu impur, dans le sens où la théorie de la licence morale, c'est que vous cherchez à avoir une sorte de balance morale dans vos actions, donc vous avez comme un compte en banque dans votre tête avec les points positifs pour les bonnes actions et les points négatifs pour les mauvaises actions. Si vous vous souciez des animaux, vous allez vous dire « Très bien, aujourd'hui, j'ai acheté du poulet en plein air, donc je gagne quelques points parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bonne action. » Et du coup, ben le lendemain, peut-être que vous vous autorisez du jambon qui est issu de l'élevage intensif, donc vous allez avoir des mauvais points, etc. Vous cherchez à avoir une sorte de balance morale à la fin de la journée. Et donc l'idée de cette compensation morale, c'est que, par rapport au paradoxe d'exploitation animale, c'est dire qu'il n'y a plus forcément de paradoxe. Vous prenez soin de votre animal de compagnie d'un côté, ça vous fait des points positifs dans votre tête, et ensuite vous vous autorisez à manger de la viande, et donc du coup vous arrivez à un solde un peu près de zéro, donc les actions se compensent. Mmh. Et donc ça c'est différent de la théorie de dissonance cognitive, parce que la théorie de dissonance cognitive dit vous essayez d'être cohérent entre vos actions. Par exemple, s'il y a une dissonance qui se crée parce que vous mangez de la viande et vous prenez soin de votre animal de compagnie, vous allez essayer de changer vos croyances. En disant, par exemple, l'élevage intensif, c'est pas si grave que ça, ou bien vous dites, les animaux, en élevage, ils souffrent pas vraiment, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du raisonnement motivé. Vous essayez d'être cohérent entre vous. Parce que la théorie de la licence morale, c'est une théorie qui cherche pas la cohérence. Vous faites des actions qui sont incohérentes, mais qui se compensent d'un point de vue moral.
Ouais, c'est presque l'inverse. Et si on fait une bonne action à un moment, on va être d'autant plus justifié à être un peu moins top le reste de la journée parce que bon, on a déjà donné.
Exactement. Et le problème aussi, c'est que c'est pas forcément lié à un seul sujet. Vous pourriez très bien, donc c'est un peu au cas par cas, il faut regarder, mais vous pourriez très bien vous dire, j'ai fait une bonne action dans un domaine A, je me permets de faire une mauvaise action dans le domaine B, parce que ce qui compte, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai plutôt une bonne image de moi.
D'accord. Et en quoi ça se distingue donc du warm glow?
Alors oui, donc Warm glow, vous cherchez pas forcément à avoir cette balance morale. L'exemple typiquement du warm glow, c'est quand j'ai travaillé sur les 20 mesures pour les animaux. C'est un projet que j'avais mené pour évaluer le bien-être de 20 mesures pour les animaux. On a mesuré la volonté à payer des gens pour plusieurs politiques, mais typiquement, les gens, ils sont prêts à payer, je tire à gros traits, mais à peu près pareil pour sauver 10 dauphins par an en France, pour arrêter les spectacles, enfin les dauphins et les orques en captivité, que pour mettre fin à l'élevage en cage en France. Ou l'élevage intensif. Et donc, on se rend bien compte que c'est pas l'impact altruiste n'est pas du tout le même. Mais en fait, les gens sont prêts à payer à peu près la même chose parce que ils paient surtout pas forcément pour l'impact au final sur les animaux, mais parce que eux, ils veulent faire quelque chose pour les animaux.
Mmh. Ils se sentent bien d'eux-mêmes, ouais.
Exactement. Ça c'est du warm glow. Et ça explique par exemple, il y a ce qu'on appelle le scope insensitivity. Donc c'est le fait de ne pas être sensible au nombre d'animaux qui sont impactés par une mesure. Donc ce qu'on s'est aperçu dans les recherches, c'est si je vous dis combien vous êtes prêt à payer pour sauver 1000 animaux ou 1 million d'animaux, bah en fait il y a très peu de différence entre les deux. Et ça s'explique en partie parce que ce que vous êtes prêt à payer pour 1000 animaux, c'est surtout du warm glow. Peu importe le nombre d'animaux qui sont concernés, vous voulez juste faire quelque chose de bien pour les animaux. Voilà. Donc c'est vraiment différent de la licence morale, où là au contraire, j'ai envie de dire potentiellement, vous êtes prêt à faire plus d'actions, vous sauvez plus d'animaux pour compenser d'autres mauvaises actions. Après, les deux sont pas incompatibles. Hein. Vous pouvez très bien faire une action purement symbolique, donc il y a une grosse composante warm glow dedans pour vous, mais qui vous permet de justifier une autre action mauvaise que vous avez faite. Donc les deux peuvent très bien s'imbriquer.
Et du coup, est-ce que c'est aussi le warm glow qui explique le fait que l'essentiel de l'argent qui est donné pour les animaux, en France, mais je pense que c'est valable dans d'autres pays, va non pas aux animaux d'élevage, mais en fait aux animaux de compagnie qui sont abandonnés, par exemple?
Alors, je pense que c'est un des facteurs, c'est sûr. Je pense qu'il y en a d'autres. En partie, par exemple, l'ignorance sincère, je reviens dessus, mais...
Ouais. En fait, on n'a pas conscience que les chiffres sont juste pas du tout proportionnels, ils n'ont rien à voir.
Exactement.
Il y a très peu d'animaux abandonnés par rapport au nombre d'animaux élevés pour la consommation humaine.
Totalement. Donc c'est vraiment, on n'a pas du tout en tête les ordres de grandeur, ça c'est évident. Mais on est mauvais en manière générale, mais c'est d'un point de vue cognitif avec des ordres de grandeur, de comparer des choses avec des ordres de grandeur si différents. Donc il peut avoir l'ignorance sincère, on se rend pas compte du nombre, on se rend pas compte non plus de comment ça se passe mal pour ces animaux dans les aval intensifs, hein, donc un niveau d'intensité. Mais c'est vrai que le warm glow aussi peut jouer un rôle ici.
Parlez aussi dans votre livre de l'influence sociale, tout simplement, et qui est un des facteurs aussi principaux d'explication, le fait qu'on est dans une société où l'énorme majorité des gens consomment des animaux soit sans se poser de questions, soit le font de façon assumée, et ça a un impact sur nos propres choix de consommation et nos propres positions morales. Et c'est intéressant, dans ce chapitre-là, vous distinguez entre l'apprentissage social. Vous dites que là, ce serait la partie rationnelle de capter l'information qui est contenue dans l'action qu'on peut observer chez les autres et le désir de conformité. Est-ce que vous pouvez creuser cette différence? Je l'ai trouvée vraiment très intéressante.
L'apprentissage social, c'est vraiment l'idée d'aller chercher... Donc quand vous observez les comportements alimentaires des autres, vous allez en induire de l'information. Donc par exemple, vous arrivez au travail lundi matin et... lundi midi plutôt, il y a une de vos collègues qui dit « Ah non, moi j'ai décidé de devenir vegan. » Et donc là, vous vous dites « Ah, si elle a décidé de devenir vegan, c'est parce que elle a dû se renseigner, elle doit avoir de l'information sur le fait que manger de la viande ou manger des produits d'origine animale, c'est quelque chose, il y a un problème là-dessus. » Donc c'est cette information indirecte que vous allez avoir. Pour donner un peu l'exemple de qu'est-ce que c'est que... toute cette apprentissage social, c'est vous arrivez au supermarché, par exemple, il y a deux caisses qui sont ouvertes, enfin qui ont l'air ouvertes, mais tout le monde est sur la caisse de gauche. Et donc, vous faites de l'inférence à partir de ça. Vous dites, si tout le monde est sur la file de gauche, c'est qu'il y a bien une raison pour être sur la file de gauche. Donc, vous allez vous mettre sur la file de gauche. Le problème qu'on peut avoir, c'est, et donc je pense qu'on est typiquement là-dessus sur la consommation de viande, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des cascades informationnelles. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il y a tellement de monde sur la file de gauche qu'en fait, même si vous avez un gros panneau écrit ouvert sur la file de droite, vous n'allez pas y aller parce que vous dites « Non, mais il y a tellement de gens sur la file de gauche, c'est qu'il y a forcément une raison. » Donc là, même si vous avez d'autres signaux, vous allez arrêter de regarder ces autres signaux, vous allez juste suivre le groupe. Et je pense qu'on est dans ce cas-là un peu aujourd'hui sur la consommation de viande, c'est-à-dire que énormément de gens mangent de la viande à très forte quantité. Et donc, finalement, les gens se disent « Bon, c'est peut-être les vidéos d'L114, c'est peut-être totalement tiré par les cheveux, parce que sinon, il n'y aurait pas autant de gens qui continueraient à en manger sans problème. » Donc on peut être dans cette cascade informationnelle où finalement on est bloqué sur la mauvaise information. Donc ça c'est possible, ça fait partie des... pour ça que je voulais en discuter dans le livre. Même d'un point de vue totalement rationnel d'acquisition d'information, on peut arriver sur des comportements de groupe qui ne sont plus rationnels. Donc ça on essaie de distinguer ça de la désir de conformité sociale, qui est que effectivement dans un groupe il y a une norme sociale qui se crée et il y a un coût à dévier de cette norme sociale. Donc on peut parler par exemple d'un code vestimentaire. Vous allez à un mariage, vous êtes un homme, tous les hommes vont être en costume, c'est compliqué d'arriver en short et en tongs, même si les mariés vous disent qu'il n'y a aucun souci. Voilà, donc là vous avez le couleur sociale. Et donc ici pareil, c'est-à-dire que c'est relié, donc entre autres, hein, par exemple, à tout ce qui est, on peut voir ça lié à la végéphobie, c'est-à-dire vous avez un stigma social au fait de ne pas manger de viande, et donc du coup, c'est difficile pour vous de tenir ça, donc peut-être que vous n'allez pas assumer, ou peut-être que du coup il y a des personnes pour qui c'est compliqué de faire ce pas-là. Vous êtes invité chez des amis, il y a un vrai coup à leur dire, ok, mais attention, je mange pas de viande, du coup voilà. Donc ça c'est, on essaie de distinguer les deux, sachant que dans la vraie vie les deux se mêlent, c'est-à-dire que quand vous mangez avec d'autres personnes ou quand vous regardez leurs décisions, vous êtes tous ensemble, donc en même temps vous apprenez de ce qu'ils font et en même temps il y a une norme sociale. Donc les deux phénomènes sociaux sont imbriqués dans la vraie vie. Et nous, on essaie juste de les distinguer.
Et du coup, on peut penser que c'est un des freins qui peut facilement ou à terme s'inverser, en fait. Quand il n'y aura plus une situation où 98% des gens qui nous entourent mangeront des animaux, ce sera déjà, il y aura moins de désir de conformité, ou alors on cherchera à se conformer à d'autres groupes qui, eux, ne veulent plus les exploiter. Et ça rendra l'apprentissage social moins difficile, probablement, autour des questions du véganisme.
Alors, je pense que déjà ces dernières années, on a vu une évolution assez forte, hein, en termes de... Ouais. Maintenant, la plupart des restaurants, par exemple, ont un plat végétarien, je dirais pas une carte, mais un plat végétarien, je veux dire que peut-être 15 ans, c'était pas du tout le cas. Donc y a déjà rien, il y a une reconnaissance sociale à avoir une place dans le menu déjà.
Ouais,
donc effectivement,
c'est vrai.
Voilà, parce que on peut aller ensemble dans les mêmes restaurants, des choses comme ça. Donc voilà, donc effectivement ça évolue. Je pense que pour moi le meilleur facteur de qui montre un peu le changement de normes sociales, c'est le forte prévalence maintenant des flexitariens qui n'existaient pas vraiment il y a 10-15 ans. Et qui aujourd'hui sont très forts. Donc, je dis pas forcément que c'est. Je pense qu'il y a un peu d'autocomplaisance, parce que peut-être les gens se rendent pas compte de. Ils disent flexitarien, et puis on ne sait pas dans quelle mesure ils le sont. Mais en tout cas, s'il y a cette volonté de se déclarer flexitarien, c'est qu'on voit bien que la norme sociale change, et qu'elle est vers la réduction de la consommation de viande. Donc, effectivement, on voit que ça bouge.
Ouais, c'est plutôt un signe positif en fait.
Faut le voir comme
que
ça.
Les gens, même quand ils réduisent pas effectivement leur consommation, ils veulent quand même se déclarer comme réducteurs de consommation d'animaux, ouais.
Et parce qu'en fait, c'est l'ordre normal des choses en fait. Là, on commence par dire il faut changer avant de changer.
Oui.
Donc là, on est sur cette période un peu où il y a un fossé entre ce qu'on dit ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait, mais c'est un fossé qui est naturel. Voilà. C'est normal qu'on soit là et c'est plutôt un bon signe qu'on soit là, c'est que les choses avancent dans la bonne direction.
Ouais. Alors jusque-là, on a parlé de beaucoup de facteurs qui sont davantage, disons, individuels et psychologiques. Mais en fait, ça me semble important de rappeler que l'exploitation animale n'est pas quelque chose qui se joue seulement à l'échelle individuelle, c'est un problème de société qui exige de ce fait des changements politiques et collectifs majeurs, et vous en parlez aussi dans votre livre, hein, vous mettez l'accent sur tous les facteurs et tous les enjeux des freins, en fait, pour résoudre ce problème. Et une des choses dont vous parlez, c'est un autre écart, qui est le paradoxe consommateur-électeur. Donc c'est-à-dire que par rapport à ce que vous venez de dire, qu'on pense à changer avant de changer de fait nos comportements, ça se traduit aussi peut-être politiquement dans l'idée qu'on est prêt à voter pour des changements politiques avant d'être prêt à en endurer le coup d'un point de vue de consommateur, c'est ça ?
Oui, c'est une des explications, une autre explication, c'est qu'on est prêt à faire un effort collectivement qu'on n'est pas prêt à faire individuellement. Et pour moi, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce paradoxe consommateur-électeur. En anglais, c'est le vote by gap.
Donc concrètement, ce paradoxe, c'est parce qu'il y a plein de gens, par exemple en France, qui sont pour la fin de l'élevage intensif, mais qui continuent d'acheter de la viande qui provient de ces élevages.
C'est ça. En fait, voilà. Donc, je suis contre l'élevage intensif. En même temps, j'achète des produits issus de l'élevage intensif. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc, très souvent, en fait, le gouvernement a une très mauvaise interprétation là-dessus. C'est qu'ils disent, regardez, les gens, en fait, achètent de l'élevage intensif, c'est qu'ils aiment l'élevage intensif, sinon ils n'achèteraient pas. Et en fait, ça, c'est une très mauvaise vision du problème, pour plusieurs choses, mais la raison principale, c'est en fait que les gens peuvent se dire, moi, si j'arrête l'élevage intensif à niveau individuel, je vais juste payer peut-être deux fois plus cher mon poulet, et en même temps, je vais avoir zéro impact sur les poulets, parce que je veux dire, moi seul, sur 66 millions de consommateurs, il n'y a aucun impact quasiment. Donc, ça vous coûte à vous, sur le budget, et en même temps, l'impact est très faible, donc vous vous dites, aucun intérêt à agir seul. Et donc, en fait, on est sur ce problème de collectif, donc qui ressemble beaucoup à un dilemme du prisonnier pour ceux qui connaissent. On est sur la situation la plus défavorable, alors qu'en fait, tout le monde aimerait aller sur la situation plus favorable, ou 90% des Français en tout cas. Et donc, comment est-ce qu'on essaie de sortir là-dessus? Ben, en fait, ça passe par des règles collectives, en fait. On agit comme des coopérateurs conditionnels. Donc, je suis prêt à faire un effort si tout le monde fait un effort. Et donc, l'exemple qui a motivé cette littérature de Lusk et Norwood ont été les premiers à en parler, c'est un référendum en Californie sur l'interdiction des œufs de poule en cage. Et en fait, il y avait, je crois que c'était plus de 2/3 des Américains des Californiens qui achetaient des œufs de poule en cage. Et il y a eu un référendum pour interdire ces œufs de poule en cage. Et il y a une majorité de Californiens qui ont voté pour interdire ces œufs de poule en cage. Et donc, ils se sont dit, comment est-ce que c'est possible, en fait? On sait que c'est pas le poids des véganes qui sont arrivés sur le vote et qui étaient pas là avant, ou des végétariens, non, parce que c'était pas assez nombreux. Mais vraiment, on a ces consommateurs qui ont switché. Et donc, pourquoi? C'est ces consommateurs-là. Ils achètent des œufs de poule en cage, mais parce qu'en fait, changer seul, ça a aucun impact. Mais quand on leur donne la possibilité de changer collectivement, là, ils disent oui.
Donc, en fait, ça rejoint vraiment, enfin, moi, ça me fait penser, c'est le même problème que pour les crises écologiques, en fait.
C'est vrai, tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie de faire des traités internationaux où on dit tous ok, on agit et seulement si tout le monde agit, on agit. Ou bien parfois des traités internationaux sur les armes, les droits humains par exemple, où on dit le traité ne rentrera en vigueur que s'il y a tant d'États qui l'ont ratifié. Donc c'est s'assurer un certain niveau de coopération internationale avant d'aller plus loin.
D'accord. Mais alors du coup, ça suppose quand même qu'il y a un coût personnel au fait de changer, même si personne ne change autour. Mais une autre chose que vous dites dans le livre à un autre moment, c'est que en fait, c'est pas toujours vrai qu'il y a un coût personnel à ne pas manger d'animaux. Et des fois, on sous-estime la simple inertie des gens et donc le poids en fait des options par défaut et des simples habitudes. Et on le voit bien avec quelque chose qui s'appelle le nudge en économie, qui permet très facilement d'obtenir des changements assez drastiques par un simple changement de choix par défaut. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un nudge ?
Alors l'objectif du nudge, c'est, dans sa définition la plus pure, c'est de changer la manière dont vous présentez les choix aux individus pour induire un changement de comportement. L'exemple le plus connu, c'est coller une fausse mouche dans les urinoirs chez les hommes pour qu'ils visent la mouche et qu'ils en mettent moins à côté. Donc ça, c'était un peu l'exemple connu. Mais ça a été appliqué à beaucoup, beaucoup de choses. À l'hôtel, vous pouvez avoir un petit carton qui vous dit la plupart de nos visiteurs décident de ne changer qu'une fois de serviette pendant le séjour pour que les gens fassent moins de lessive et du coup qu'on gagne de l'eau, etc. Des choses comme ça. Donc il y a des effets très variés hein, des nudges. Il y a des nudges qui sont très impressionnants. Un papier que je mentionne dans le livre, c'est un papier de Hansen et co-auteur de 2019. Où en fait, pour une inscription à une conférence, on demande aux individus, aux participants, s'ils veulent, on leur envoie un mail, on leur demande est-ce que vous voulez manger le plat de viande, qui est le plat par défaut, ou le plat végétarien. Et puis l'autre moitié des participants, ils reçoivent le mail inverse, vous voulez manger le plat végétarien qui est par défaut, ou le plat de viande. Et effectivement, là on voit que à peu près 80-90% des gens restent sur le plat par défaut. Donc on peut passer de 10% de plats végétariens à 80-90%. Donc là, c'est un effet énorme. C'est peut-être le plus gros effet qu'on peut estimer, parce qu'ici, c'est sur peut-être 2 jours de conférence, etc. Puis dans la vraie vie, ce serait pas autant. Mais voilà, il y a plusieurs travaux quand même qui ont montré que ces petits mécanismes coup de pouce, nudge, ça veut dire coup de pouce, ça peut fonctionner. Donc dans les cantines, par exemple, c'est mettre en avant le plat végétarien. Sur le menu, dans l'ordre du menu, ou le mettre en avant à l'entrée du restaurant. On peut penser à plein de choses sur les nudges, mettre des petits coups de cœur, des choses comme ça. Ensuite, il y a des interventions qui sont un peu à la mi-chemin des nudges, qui donnent aussi un peu d'informations, mais que certains appelleraient des nudges. Donc c'est pas purement des nudges, mais par exemple, vous mettez, des pastilles vertes sur les plats qui émettent moins d'émissions de CO2, rouge, ça qui émettent le plus. Donc, là, vous véhiculez de l'info, mais le côté couleur donne une dimension normative qui crée quand même qui peut induire du nudge. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose d'intéressant, et la manière dont je vois les choses, c'est que on a tout un ensemble de politiques publiques pour faire en sorte que on mange moins d'animaux, on exploite moins d'animaux de manière générale. Des politiques qui sont très contraignantes. Bon, les économistes aiment beaucoup la taxation, par exemple, mais c'est quand même contraignant, ou bien un changement de législation, interdire certaines pratiques. On en a d'autres qui sont moins contraignantes, comme les nudges, comme les campagnes d'information. Et donc je pense qu'il faut, en fonction du domaine dans lequel on est, de l'acceptabilité à laquelle on fait face, utiliser des outils plus ou moins soft en termes de politique publique pour faire ça. Donc je sais pas s'il y a, une municipalité qui cherche à réduire la consommation de viande dans la cantine. Si elle est face à une population qui est très réceptive, peut-être que voilà, elle peut facilement dire bon, on aura 3 repas, 2 fêtes végétariens par semaine. Et puis peut-être que les 2 autres, il y aura juste une option, on pourra choisir entre 2 plats, par exemple. Je pense, là, l'exemple typique, c'est la cantine de la Technische Universität à Berlin, qui est devenue totalement végane. Donc là, il y a une forte niveau d'acceptabilité, tout le monde change, et très bien. Ou bien, il y a peut-être des endroits où c'est plus compliqué, donc on peut commencer par des nudges. Le gros avantage du nudge, c'est que on préserve la liberté des gens. C'est-à-dire que la liberté de choix. Donc les gens ne peuvent choisir comme avant. Le problème, c'est que l'impact est quand même souvent de deuxième ordre, donc plus limité, de fait. Mais ça peut être une bonne politique pour aller petit à petit.
Mais en fait, c'est justement une des choses assez géniales dans votre livre, c'est que vers la fin, il y a un grand tableau où vous listez, vous évaluez en fait les différents types de politiques publiques qui peuvent être menées. En fait, pas que publiques, les politiques des entreprises, les politiques des organisations animalistes, par exemple. Et vous listez leurs avantages ou leurs inconvénients selon qu'elles arrivent à répondre à chacun des freins que vous avez identifiés, à la fois psychologiques, tout ce qu'on a cité, donc le warm glow, licence morale, dissonance cognitive. Et c'est pas toujours les mêmes, et du coup, ça invite à mener en fait une pluralité, à avoir un pluralisme des types d'actions pour répondre à différents freins selon les situations.
Oui, bah, en fait, c'était l'objectif du livre. Du coup, comment sauver les animaux? Bah, l'idée, c'est de dire que potentiellement, on est face à des problèmes différents. Voilà, il n'y a pas que la dissonance dissonance cognitive. Il y a peut-être d'autres choses. Et en fonction des facteurs auxquels on fait face, des situations auxquelles on fait face, il y a des outils de politique publique qui sont plus efficaces que d'autres. Et donc, l'idée de ce tableau, c'est d'arriver à me dire, bon, bah, si vous êtes dans une situation, vous vous rendez compte que c'est la norme sociale qui est très importante, les gens se sentent vraiment, d'un point de vue social, ils font beaucoup attention à ce qu'ils mangent pour les autres. Bon, bah, peut-être que vous pouvez mettre des nudges de normes sociales là-dedans. Voilà, dire ce qui est très désirable, ce qui est bon pour la planète, etc. Là, ça peut fonctionner. Si vous êtes, par exemple, face à l'ignorance sincère, bon, bah, go, on va pour des campagnes d'information, parce que avant d'imposer quoi que ce soit, il faut faire de l'information. Donc, l'idée, c'était un peu ouais, à la fin, d'arriver sur, je dirais pas un guide, mais sur une grille de lecture, hein, de quel type de politique publique pour quel type de problème.
Pour donner un autre exemple, Romain Espinoza consacre dans son livre un sous-chapitre au parti animaliste. Celui-ci permet particulièrement bien de répondre à plusieurs des freins dont on a parlé. Par exemple, l'ignorance sincère, par les campagnes d'information et d'affichage. Le paradoxe, consommateur et lecteur, puisqu'on peut voter pour le parti animaliste indépendamment de ses pratiques personnelles. En plus, le vote est une pratique qui sollicite davantage la réflexion et donc le système 2. On vote rarement juste en mode pilote automatique. Et enfin, un vote pour le parti animaliste peut donner une forte utilité de warm glow, qui est associée à ce vote. C'est l'occasion de se voir comme un ami des animaux à faible coût. Donc l'altruisme impur est ici retourné en faveur de la cause animale. J'ai l'impression quand même que pour pouvoir, même si on a votre tableau en fait, et qu'on a les capacités de choisir quel type de politique est le mieux adapté par rapport aux différents freins, ça demande quand même, ça requiert de pouvoir arbitrer entre, parce qu'en fait, c'est pour l'instant qu'à l'état d'hypothèse de qu'est-ce qui joue le plus comme un frein. Et du coup, ma question, c'est comment on arbitre entre ces hypothèses, comment on les transforme, comment on les fait passer du stade d'hypothèse à des explications réelles des freins et des explications réelles du paradoxe.
Alors je pense qu'on a sur pas mal de sujets, on a des preuves que chacun existe, chacune des théories est valide. Alors, une des difficultés, c'est que une théorie peut être valide dans un contexte et pas forcément dans un autre. Vous pouvez, dans certaines situations, être vraiment dans la dissonance cognitive, dans d'autres situations, dans la licence morale. Enfin, ça peut dépendre des situations. Il n'y a pas une seule situation en termes de consommation alimentaire ou même d'exploitation animale ou de manière plus générale. Donc ça peut le rendre un peu difficile, mais on a quand même des preuves que plusieurs d'entre elles existent. Le warm glow, on sait que ça existe, les sciences cognitives, on sait que ça existe, l'ignorance sincère, on sait que ça existe, la réactance, on sait que ça existe, donc des choses comme ça, l'apprentissage social aussi. La conclusion un peu à laquelle j'arrive moi, c'est que quand on est un peu en incertitude sur quelle est la théorie dominante, il faut comprendre qu'en fait les actions, elles sont complémentaires. Et je pense que, donc, j'expliquerai un mouvement, hein, parce que je suis là pour analyser, et finalement, ils ont compris ça, mais il y a une multiplicité d'actions, et finalement, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ces actions, elles répondent potentiellement à des freins différents, et qu'il faudrait pas, peut-être, se focaliser que sur un seul frein, parce que, bah, il est peut-être pas le seul, il y en a peut-être d'autres qui fonctionnent, etc. Donc, c'est une forme d'assurance, je crois, de diversifier les méthodes d'action, hein, pour lutter contre l'élevage intensif ou bien la surexploitation animale.
Vive le pluralisme alors.
C'est vrai, oui, je pense. Faut être beaucoup dans le dialogue, si possible bienveillant, voilà, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, il y a des gens qui ont pas l'information, il y a des gens pour qui c'est plus coûteux que d'autres, il y a des gens qui sont dans des milieux sociaux différents, etc. Donc c'est, ouais, petit appel à la bienveillance.
Super.
Et bienveillance et exigence, mais bienveillance.
Ouais. Ah bah ça fait une super conclusion. Merci beaucoup Romain Espinoza. Alors avant de finir, j'aimerais bien que vous donniez pour les auditoristes et pour moi trois recommandations, s'il vous plaît.
Alors première recommandation, bah, c'est un peu mon partner in crime, donc c'est Nicolas Treich, qui est donc directeur de recherche à l'INRAE à Toulouse, à Toulouse School of Economics. Donc Nico, il a des super travaux, entre autres sur le, il a coécrit un des papiers fondateurs en économie sur le paradoxe de la viande, donc analysé au travers de la dissonance cognitive. Donc c'est très intéressant de le suivre et de ses travaux et son compte Twitter si vous avez l'occasion. La deuxième, c'est Émilie Dardenne, avec qui j'ai aussi travaillé beaucoup parce qu'on était tous les deux sur Rennes, pas à la même fac mais sur Rennes. Qui a une très bonne connaissance tout ce qui est philosophie utilitariste aussi et de manière générale tout ce qui est études animales. Donc elle a monté, elle dirige un DU sur la question animale, animaux et société. Donc elle fait vraiment un super boulot. Et le dernière recommandation, ce serait un de mes doctorants, Tom Brichevalier, qui travaille sur la viande cultivée et de manière plus générale, il s'intéresse aux protéines alternatives. Et c'est vraiment un sujet qui, j'en suis convaincu, va exploser ces prochaines années avec des avancées très rapides. Et Tom a une très bonne vision de l'industrie, des enjeux en termes de comment transformation du système alimentaire avec ces protéines alternatives. Donc ça vaut aussi le coup de le lire et de le suivre.
Super. Et ben je mettrai ces trois personnes, leurs coordonnées, leur Twitter en description comme toujours. Ben merci beaucoup Romain Espinoza d'être venu dans Comme un poisson dans l'eau.
Merci à vous.
C'est la fin de ce 11e épisode d'entretien. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des avis positifs sur Apple Podcast ou à laisser 5 étoiles sur Spotify. Ça aide vraiment d'autres personnes à découvrir le podcast. Bon, après, vous pouvez aussi directement le recommander à vos amis, vos proches, votre famille, toutes les personnes qui pourraient être intéressées. On se retrouve lundi prochain pour un épisode lecture. D'ici là, bisous.